I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. En 1989, j'ai enregistré RFA Pays-Bas, je l'ai regardé 20 fois. Et quand un match de pro a passé à la télé, je notais toutes les stats à la main. Voilà l'enfance difficile de Maxime Dupuis qu'il nous raconte tous les vendredis. Et à chaque fois les mêmes histoires qu'il croit nous conter pour la première fois. Mais il paraît qu'il faut laisser parler les vieilles personnes et ne jamais les contredire. Donc on lui dit jamais rien. Et comme un vieux combattant qui exhibe ses médailles, il rappelle « Alors moi de mon temps, il n'y avait qu'un match toutes les deux semaines à la télé. Je peux te dire, je connaissais tout par cœur, j'enregistrais tout. » Si seulement il suivait avec la même assiduité aujourd'hui encore la Ligue 1 ou la Ligue des Champions, je peux vous dire que cette émission serait d'un tout autre niveau. S'il regardait 10 fois les matchs du PSG, de l'OM ou du Real, il raconterait sans doute un tout petit peu moins de saucisses dans cette émission. Dommage que la Stream Team n'ait pas démarré il y a 53 ans, Maxime, quand t'étais au top. Quand vraiment rien ne te résistait. Un collab sur l'arrière-gauche du Sporting Club de Toulon ou sur le système de jeu de l'Angleterre, obsédé par les résultats et les compos. Dommage, on fait avec ce qu'on a. Bienvenue Maxime, comment ça va?
Bah écoute Martin, merci pour cet hommage. Alors tu t'avais dit en arrivant, mon intro elle est pourrie.
Ouais, bah elle est pas terrible. Ouais.
Non, c'est pas mal, c'est pas mal. T'as saisi un peu l'air du temps.
Ouais, bah l'air de ton temps surtout. Hein.
Et non, non, et alors.
Ça y est, c'est parti.
Non, ça y est, c'est reparti. Une chose de ce que t'as dit, et qui paraît délirant aujourd'hui, pour toute personne qui nous écoute et qui a moins de 40 ans, on va dire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas un match de Ligue 1 par semaine
à la télé. Voilà. Parce qu'il y en avait toutes les semaines. Il y en avait autant.
Ah oui, 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 oui. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire. Et on en
Cette petite anecdote où tu notais quand même les stats des matchs de pro, Maxime.
Non, ça, alors je l'ai fait une fois.
Ouais, tu regardais le match en direct et tu notais les stats.
Non, il était pas en direct, je l'avais enregistré exprès parce que c'est trop dur sinon.
Donc le mec déjà enregistrait un match de pro. Mais... Imaginons aujourd'hui enregistrer un match de pro. Mais bon, bref.
Oui, ouais. Bah, déjà, faudrait le trouver sur la télé.
Déjà, faudrait le trouver.
Clair. Ouais. Et j'avais enregistré pour me rendre compte de comment. Les mecs faisaient les stats et pour voir à la fin si j'étais pas trop loin des stats officielles. Là, si je voulais être table de marque en étant plus grand. Ça n'a pas pris. Toi, il paraît que tu voulais être comédien.
Ouais, comédien, j'aurais bien aimé.
T'as bien aimé.
j'aurais bien aimé être comédien.
Parce que là, vous n'avez pas l'image, on ne sortira pas, mais on est dans un studio et il se trouve qu'il y a un jouet, un pistolet en plastique qui traîne. Et c'est un festival, voilà, tout à l'heure, de coups de feu tirés à blanc.
J'aurais aimé jouer les cow-boys, putain, c'est clair, et les indiens, d'ailleurs.
C'est le plus beau métier du monde, comédien.
Ouais, c'est vrai.
Et tu joues toute ta vie.
C'est vrai, tu joues toute ta vie. Nous aussi, on joue toute notre
vie.
On reste un peu des gosses. Il y a quand même une émission à faire, Maxime. Avec trois sujets aujourd'hui.
Ça, c'est original.
Ouais, c'est original, bon, comme toutes les semaines, en fait. On démarrera avec le PSG.
On va se poser la question.
Est-ce que le PSG a vraiment réussi son été et son mercato? C'est simple, c'est clair. Et on n'est pas forcément hyper d'accord.
Je sais pas.
Bah, moi, je sais. Parce qu'on parle tout le temps du PSG dans la rédaction. Puis bon, voilà. On continuera avec Ronaldo, Maxime.
Ouais, bah, Cristiano. Ronaldo est resté à Manchester United. Ronaldo avait envie de partir. A priori, ça ne se fera pas, même sur des marchés qui sont encore ouverts. Donc, on va se poser la question assez simple. Est-ce que Ronaldo peut être cantonné à une année sur le banc à Manchester United?
Et on terminera avec l'affaire Pogba et bah, la question quand même sous-jacente, et peut-être l'une des plus importantes aussi, c'est quelles conséquences pour les Bleus, pour l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde, évidemment. Voilà, on conclura avec ce sujet-là. On vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Notez-nous, on le dit à chaque fois, mais voilà. Là, appuyez sur pause. Allez sur n'importe quelle plateforme de podcast et mettez-nous des étoiles, voilà. Mettez des petits commentaires aussi dans Apple Podcast, on aime bien ça. Qu'est-ce qui vous passe par la tête là tout de suite? Allez-y, mettez pause et revenez ensuite. Mais voilà, mettez des bonnes notes et comme ça, ça nous permet de remonter et d'élargir notre audience.
Tu sais qu'alors tu parlais de mes habitudes de vieux.
Ouais, bah oui.
Tu sais
oui.
que t'es pas obligé de mettre pause pour aller sur Apple Podcast, t'as un téléphone. Tu
oui, peux c'est, faire vrai, plein de ouais, c'est vrai, temps, c'est vrai.
Ça
c'est
continue vrai. À faire ouais, pendant c'est que tu lis tes mails.
C'est
tout.
Vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Oui, c'est oui. assez formidable.
Oui, oui, c'est vrai. Là, on aurait dit ma mère, là, qui me demande d'écrire un mail. Mais bon. On y va, Maxime, on est parti. On remercie Anne à la réalisation.
T'as parlé de ma mère, j'ai pensé à Noël, ma mère.
Non, ma mère, ma maman. Ouais. Et on remercie aussi. Quentin, Guichard, ça va être dur cette émission parce qu'on est très dissipé, Maxime.
Oui, c'est
très,
vendredi,
très dissipé.
C'est pour ça. C'est comme tous les vendredis, tu me
diras. Oui, mais toi, comme tous les vendredis, mais moi, je te rappelle que je travaille demain, donc moi, aujourd'hui, est un jour comme un autre. On démarre avec le Mercato du PSG, Maxime.
Ouais, moi, je vais tout relire le samedi dimanche, tu vois. Ouais, on démarre par le Mercato du PSG. Le Mercato s'est terminé jeudi soir à 23h en France. Le PSG a fini ses emplettes et le PSG, pour une fois, a beaucoup, beaucoup... Peut-être pas vendu, mais si, même si plus que d'habitude, mais c'est surtout délesté de beaucoup de poids morts jusqu'ici, notamment on en reparlera de Kurzawa, Draxler, etc. La question est simple, Martin, je vais te laisser répondre d'entrée. Est-ce que pour toi, le PSG a réussi sa mission sur le mercato ?
Oui, pour trois raisons. La première, la plus évidente et la plus importante, c'est la prolongation de Kylian Mbappé. Voilà, de là découle tout quand même. C'est aujourd'hui, il est l'un des meilleurs joueurs du monde, tu le prolonges alors que tout le monde pensait qu'il allait partir au Real. Premier argument. Deuxième argument, oui, parce que tu t'es débarrassé d'un paquet de tes boulets qui étaient là depuis des années et des années. C'était très compliqué de leur trouver des portes de sortie. Kurzawa, Diallo, Herrera, j'en oublie, Kerrer, enfin, on ne va pas tous les citer, voilà. Et le troisième point qui me semble lui aussi fondamental, tu n'as pas craqué. Tu n'as pas craqué quand Lewandowski était là, tu n'as pas craqué quand Pogba était disponible. Et finalement, ton équipe était déjà prête. Au combat, il te suffisait juste d'ajouter quelques petites touches. Vitinha et Kitike, je trouve ça par exemple très intelligent. Mais tu n'as pas craqué sur des gros joueurs qui auraient pu mettre en péril l'équilibre de ton équipe. Donc voilà, j'ai fait vite, Maxime. Pour moi, c'est hyper réussi, même s'il y a des bémols, mais on y reviendra plus tard.
Alors je pense qu'il faut, avant de dire que c'est réussi, il faut déjà voir l'apport qu'auront les recrues évidemment sur le marché. Puisque souvenez-vous, l'année dernière, à la même époque, on était quand même très très positif sur le mercato, même Wijnaldum, même Ramos, parce qu'on disait que ça va amener un peu de grinta dans le club. Finalement, on a vu que ça ne marchait pas, que ça n'avait pas marché parce que la faute n'était pas seulement sur le terrain, on va dire, c'était aussi sur le banc. Voilà. Sur le papier, je pense que c'est un très bon mercato du PSG, mais je mettrai un mais parce que justement, ils ont délesté de beaucoup de poids morts. Mais ces poids morts, pour la plupart, reviendront. Et il y a un petit mais aussi, dont on parlera un peu plus tard aussi, c'est la défense centrale où là, il y a peut-être un manque qui va devenir criant au fil des mois.
C'est simple, Paris va jouer avec une défense à 3. Donc, il faut combien de défenseurs centraux ? On a 3. Et on a combien dans l'effectif du PSG ? En l'état des défenseurs centraux de métier, vraiment, il y en a 3. Et quand l'un de ces 3 est en plus Sergio Ramos qui sort d'une saison blanche, forcément, ça expose ce secteur-là aux blessures et donc à un manque de profondeur qui semble aujourd'hui évident. Donc, sans peut-être aller chercher un Skriniar qui était beaucoup trop cher, 80 millions. Et là aussi, ils ont bien fait de ne pas craquer. Ouais. Hein, on parlait de Lewandowski et de Pogba, mais Skriniar à 80 millions d'euros. Je pense que Paris en a eu un petit peu marre de jouer les pigeons et ça s'est vu cet été, j'ai trouvé ça très bien. Mais il manque quand même ce défenseur central. Alors, il y a Mukiele qui peut évidemment rendre des services axe droit notamment. Mais pour moi, ça me semble très compliqué de se tenir à cette défense à 3 quand tu n'as vraiment que 3 références au poste. Et encore une fois, parmi eux, il y a Ramos. Donc moi, ça me paraît difficilement tenable. Et c'est un vrai manque de ce mercato-là. Ils auraient pu prendre un super défenseur de Ligue 1 sans le payer 80 millions. Mais pourquoi pas un Disasi ou des joueurs comme ça qui auraient fait quand même du bien, au moins un quatrième. Quoi.
Ouais, parce que tu parles de la blessure. Oui, la blessure long terme, ça arrive. Mais tu as la suspension qui arrive au bout de 3 cartons, le carton rouge. Une date, le 28 décembre prochain, le PSG, a priori, aura eu des internationaux qui ont joué à tout le monde. Si jamais Ramos, par le plus grand des miracles, retrouvait l'équipe d'Espagne, et même s'il ne la retrouvait pas, il y aura quand même un trou dans la défense. Voilà. Donc c'est vrai que partir à la guerre avec 3 défenseurs, avec si peu de défenseurs, c'est compliqué. Je suis complètement d'accord avec toi sur Skriniar. Mais ça crée des tensions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour faire simple, Campos et Galtier avaient très envie de Skriniar, sauf que l'Inter, au départ, souvenez-vous des prix, 70, 80 millions, c'était l'enveloppe du PSG pour recruter hors vente. Voilà. Donc ça veut dire que le PSG aurait grillé toute son enveloppe sur un seul joueur à ce prix-là qui, il me semble, n'a plus qu'un an de contrat.
Oui, il lui reste qu'un an de contrat.
Donc, voilà, ça n'avait aucun sens. Alors ça a créé des tensions parce qu'Antero Henrique, en gros, ça freine un peu les cas de fer. Si ça ne vend pas, on ne peut pas acheter. Donc le PSG n'y est pas allé. Je pense qu'il y a une erreur du PSG, c'est-à-dire de s'être trop entêté sur Skriniar, et même à ce prix finalement. Et comme tu l'as dit, d'aller chercher peut-être une solution intermédiaire, parce que le PSG s'est renforcé beaucoup dans l'entrejeu, au milieu de terrain. D'ailleurs, on en reparlera sûrement dans la saison, c'est de savoir si les recrues qui sont arrivées, Soler, Ruiz ou le troisième,
Vitinha,
évidemment, ont l'impact recherché, parce qu'on sait que le PSG a souvent... pêcher dans
Sanchez aussi.
Renato Sanchez, oui, c'est vrai que ça fait quatre types. Ça a souvent pêché justement dans ce côté-là sur l'impact et c'est là où il devait progresser. Donc ça, le temps le dira et c'est pour ça que c'est assez difficile d'avoir un avis définitif sur ce mercato parce qu'encore une fois, ce qui se passe très bien, on en a parlé la semaine dernière, le mois d'août du PSG était très bien. Et puis il y a eu Monaco. Monaco qui est venu de manière jouer
bousculer,
beaucoup plus agressive, qui allait chercher le PSG. Et là, on a vu qu'il y avait des soucis. Pourtant, on pouvait dire, les gens pour relancer, oui, mais quand il y a moins d'impact, c'est plus compliqué. Donc le PSG, oui, ça ressemble quand même à un mercato réussi. Et les départs, évidemment, ça prouve aussi que c'était possible, que le PSG ne vendait jamais. Alors, vous allez me dire, le PSG n'a pas vendu énormément. Ils ont fait 49 millions, ce qui est pas mal, ça aurait pu être mieux. Donc 25 pour Kalimuendo, qui là, pour le coup, est très, très, très bien vendu. Le petit bémol, évidemment, c'est que tous les joueurs qui ont été prêtés, les Kurzawa à Fulham, les Draxler à Diallo à Leipzig, Draxler à Benfica, ça a des chances de revenir l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que ce sont des joueurs qui sont prêtés, mais au standard du PSG. C'est-à-dire que c'est avec le salaire parisien et qui est aussi en grande partie payé par le PSG. Donc le PSG va traîner quand même encore quelques années ces boulets-là. Mais n'empêche que sur l'été, c'est quand même, côté parisien, je pense que ça peut être assez satisfaisant, au moins sur le rayon départ. Parce que aussi, il faut le dire, d'avoir ces joueurs qui partent, ça assainit aussi un vestiaire, de ne pas avoir des fantômes de vestiaire qui sont là tout le temps.
Et juste pour terminer, ce que je dirais aussi, c'est que pour moi, la meilleure recrue du Paris Saint-Germain, on n'en a pas encore parlé, c'est ce duo. C'est Galtier-Campos. Alors, il ne rentre pas dans le tableau des transferts parce qu'on ne parle que des joueurs. Mais malgré tout, la direction qu'il donne, on en a parlé la semaine dernière, le fait qu'il marche main dans la main, et la personnalité de Galtier aussi en tant que manager, tout ça fait que pour moi, la meilleure recrue du PSG cette saison, c'est Galtier, accompagné de Luis Campos. C'est cette direction enfin assumée et claire, surtout pour le Paris Saint-Germain sur la saison qui vient. Et c'est tout ce qui manquait à Paris depuis pas mal d'années. Donc c'est pour ça que moi, hormis effectivement cette petite ombre au tableau avec le défenseur central, voilà, je mets une très bonne note au mercato.
Mais c'est vrai que ça peut être une grosse ombre au tableau parce qu'au moment où il manquera des... Alors, on peut toujours repasser à 4 défenseurs centraux, défenseurs et 2 centraux. Mais quand même, quand vous essayez d'implémenter une manière de jouer, d'habituer des joueurs à un système de jeu et qu'à un moment ça marche bien, c'est toujours un peu embêtant d'être coincé, surtout quand ça s'appelle le Paris Saint-Germain. J'ai quand même un dernier bémol à mettre, c'est sur un des joueurs qui n'est pas parti, c'est Keylor Navas. Alors Keylor Navas, la chance du PSG jusqu'au mois de décembre, c'est qu'il y a une Coupe du Monde, voilà. Mais je pense que moi, je suis jamais très fan de très bons gardiens.
Même si là, la hiérarchie est claire.
La hiérarchie est claire, mais Galtier en conférence de presse ce vendredi a dit, je vais peut-être un peu comme il a dit, je m'interdis pas d'avoir la réflexion de savoir si Keylor ne doit pas, comme tout numéro 2, jouer quelques fois.
Mais alors, il a raison. Il le maintient dans son statut de numéro 2.
Exactement, et c'est très bien de le dire, mais n'empêche que chaque fois qu'il y aura un souci avec Donnarumma ou un petit doute, on se rappellera.
Gros plan sur Navas.
Il y a Navas qui est très bon et qui lui n'a jamais démérité et qui ferait aussi un excellent numéro 1, qu'il est toujours là. Et le côté de dire, pour faire souffler Donnarumma, gardien qui souffle. Moi, le gardien qui souffle, ça, j'ai jamais compris le principe. Hormis mentalement peut-être, faut pas oublier une chose en plus, il va souffler un mois Donnarumma au mois de novembre. Donc lui, il n'y a pas de Coupe du Monde. Donc je pense que ça sera une situation à surveiller de près où il faudra être très bon, même si je pense pas que Navas soit le pire coéquipier dans un vestiaire. Ça peut être quand même problématique tout simplement.
Un autre homme qui pourrait devenir, dont le cas pourrait devenir problématique, c'est
Kurzawa.
Ah, pas Kurzawa.
Non mais alors.
Un tout petit peu plus de talent.
Un petit peu plus au-dessus, mais il jouera en Angleterre aussi. J'étais toujours étonné de penser que l'entraîneur de Fulham mettait une priorité sur Kurzawa.
Ouais, c'est fou.
C'est fantastique. C'est-à-dire, il a dû voir des cassettes de 2017.
Mais pour les besoins d'un papier, j'ai regardé les Français qui sont allés à Fulham. À Paris, à Diop, généralement, ça se passe pas bien du tout. Je sais pas si...
Non, il y en a un autre aussi, je pense. Mais c'est très vieux. Louisa.
Ah oui, Louisa. Oui, non, mais je te parle sur les 6-7 dernières années. On va rester en première ligue. Avec Cristiano Ronaldo, la question qu'on va se poser, Maxime, c'est que Cristiano Ronaldo n'est pas parti pour le Mercato alors qu'on s'attendait à ce qu'il retrouve la Ligue des Champions dans un autre club. Il est resté, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de Cristiano Ronaldo? Que va décider Manchester United? Je rappelle simplement qu'il a démarré 4 des 5 matchs de première ligue sur le banc. Son bilan jusqu'ici est limpide.
Il est neutre.
0 but, 0 passe décisive. Alors Maxime, à quelle saison doit-on s'attendre pour Cristiano Ronaldo?
Je pense qu'elle ne sera pas si mauvaise qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. En effet, il est sur le banc aujourd'hui. Ce n'est pas anormal puisqu'il n'y a pas eu vraiment de préparation. Il voulait partir, il a été mis de côté. Il n'est pas parti, mais maintenant je serais quand même très étonné que Ten Hag le laisse de côté sur le banc et le cantonne à être un défenseur, remplaçant, pardon. Pour une raison simple, c'est que Manchester United a eu, ça va mieux, a de gros problèmes structurels et je pense que Ronaldo, c'est vraiment pas le plus important.
Ouais. Moi, je suis un peu de ton avis, mais pour une autre raison, tu ne gardes pas Ronaldo pour le mettre sur le banc toute l'année parce que tu sais que tu vas te créer énormément de problèmes. C'est un joueur qui, de par, je pense, son caractère, par son ego, par ce qu'il a réalisé aussi jusqu'ici, c'est un des plus grands joueurs, un des deux plus grands joueurs du 21e siècle, donc ça peut se comprendre aussi. Manifestera à un moment ou à un autre une forme d'impatience, une forme d'injustice et ça pourrait faire exploser Manchester United, le vestiaire, ça pourrait créer un bordel monstre. Donc à mon avis, si Manchester et Ten Hag ont décidé de le garder, c'est ce qu'ils ont dit ces dernières semaines quand même, c'est qu'ils le destinent à un rôle qui sera un peu plus, à mon avis, conséquent que celui qu'il a aujourd'hui. Sinon, Ronaldo sur le banc, c'est une vraie bombe à retardement sur toute la saison.
Ouais, et puis on reprend la saison dernière. On sait que Manchester United a terminé 6e de Première Ligue. Manchester United a des gros problèmes. On l'a vu en début de saison à Brentford, 4-0. Et Ronaldo, c'est pas le plus gros de leurs problèmes. Encore une fois, l'année dernière, il leur sauve les miches plusieurs fois.
En Ligue des Champions.
Notamment
en
Ligue des Champions, début de dernière minute. Il y a un truc avec Ronaldo, c'est les raisons pour lesquelles il a voulu partir, c'est qu'il est obsédé par sa gloire personnelle. Ça a été toujours son moteur, ça le restera jusqu'au bout. Il voit qu'il n'allait pas jouer à la Ligue des Champions, ça l'ennuie, on peut le comprendre, il a été biberonné à ça, c'est l'endroit de ses plus grands exploits. Il a un record à défendre de buts marqués et il se dit voilà, ça m'embête. Mais justement, aujourd'hui, c'est aussi un moteur. C'est-à-dire que j'imagine pas Ronaldo dans un vestiaire qui se laisse couler,
non.
Qui laisse les choses telles qu'elles sont.
Sauf si on l'exclut du jeu, peut-être.
Ils l'excluront pas du jeu.
Je pense pas non plus, parce que c'est un risque trop énorme pour moi que courrait Manchester.
Ouais, et puis je pense pas que ce soit viable. Il y a eu le gros accro, et puis Manchester United est reparti contre Liverpool avec Ten Hag qui a mis un coup de balai dans la compo. Il a mis une attaque à 3 pour l'instant qui ne bouge pas. C'est Rashford, Jadon Sancho et Elanga. Quand je vois l'effectif de Manchester United, quand je vois aussi ce qu'il y a derrière, Anthony est arrivé, je pense qu'il y a de la place pour faire jouer Ronaldo. Voilà. Je pense qu'il n'aura pas le rôle auquel il l'aura prétendu toute sa carrière, lequel il a longtemps mérité, mais il y aura évidemment un rôle pour Ronaldo, parce que, encore une fois, s'il était vraiment sur un déclin sportif absolu, je dirais, voilà. Mais là, se priver de Ronaldo, ça me paraîtrait quand même un peu bizarre. Voilà, je pense qu'il faut laisser digérer les choses. Et qu'on le reverra très vite, et pas seulement pour jouer les utilités et les remplaçants.
La réserve que j'ai, c'est que pense Ten Hag véritablement de l'individualité Ronaldo. J'ai pas la réponse à cette question-là. Je ne sais pas si Ten Hag a mis la pression à ses dirigeants pour s'en débarrasser ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait venir des joueurs de l'Ajax Amsterdam. Et s'il les a fait venir, c'est qu'il croit en eux et c'est qu'il veut les développer à Manchester United. Je n'imagine pas, par exemple, faire venir Anthony pour 95 ou 100 millions d'euros pour le laisser sur le banc. Alors, il n'est pas directement en concurrence avec Ronaldo parce qu'on sait que Ronaldo est de moins en moins un ailier et de plus en plus un attaquant axial. Mais malgré tout, il y a Sancho qui peut aussi jouer dans l'axe. Qui est arrivé l'année dernière pour 85 millions d'euros, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Bref, il y a quand même des jeunes à développer du côté de Manchester et que l'avenir, c'est eux. Ce n'est absolument pas Ronaldo. Que Ten Hag, il est engagé dans un cycle long, qu'il arrive pour poser des bases pour un Manchester qui progresse. Et de ce point de vue-là, et dans cette trajectoire et cette dynamique-là, Ronaldo, il est un petit peu sur le côté et c'est le danger pour moi qui guette Manchester United. Après, d'une façon tout à fait pragmatique, et si on réfléchirait au jour le jour, et je pense que Ten Hag, si ça se passe mal, très vite, il va réfléchir au jour le jour et il va moins voir l'après-demain que tout de suite maintenant. Dans ce cas-là, Ronaldo, il aura un rôle prépondérant à jouer. Mais c'est juste sa place dans le projet, moi, qui me pose un vrai problème. Parce que je pense qu'à la base, il ne fait pas partie du projet Ten Hag.
Non, et puis, de toute façon, sans présager de ce que pense...
Puis il lui reste un an de contrat, j'ai oublié de le dire
aussi. Ten Hag de Ronaldo, Ten Hag vient de l'Ajax. Voilà, c'est pas cadre où on met en avant les individualités absolument, où il y a besoin de se fondre dans un collectif. Et justement, ce qu'il a changé entre la raclée, le 4-0 et Liverpool, c'est ça, c'est que les statuts ont un peu sauté. Maguire sur le banc, etc. Il a mis des hommes un peu différents. Il a vu que des hommes... avec un statut un peu moins affirmé et un peu moins privilégié, faisait le job. Et c'est ça qui présidera à ce qu'il le fera et ce que deviendra Ronaldo. Mmh. Il y a autre chose aussi sur Ronaldo. C'est aussi ce que Ronaldo est capable d'accepter. Alors, vu de loin, on peut se dire, le voir changer, se dire, bon, un peu en retrait, être capable de donner une direction à cette équipe, ça paraît compliqué parce que c'est Ronaldo, parce que voilà.
Se dit, il a fait 4 matchs sur la Première Ligue et il n'y a pas trop de vagues jusqu'ici.
Voilà. Mais je pense, oui, mais parce qu'il était aussi en instance de départ. Mmh. Et voilà. Maintenant, je pense que c'est dans l'acceptation. Il faut accepter un moment de se dire, j'ai 37 ans, on va passer à autre chose. Je ne suis pas. En plus, il a du pot. On ne peut pas parler d'un déclin sportif énorme sur ce qu'il est capable de montrer. Donc, se rendre utile autrement, c'est aussi à ça qu'on reconnaît, qu'on réussit une fin de carrière. Et ce serait dommage que le deuxième passage à Manchester, c'est toujours très périlleux, un deuxième passage dans un club, soit assez triste. Donc voilà, ça tiendra aussi à lui. C'est pas seulement Ten Hag, c'est aussi ce qu'il va montrer de la façon dont il va être. Et je pense quand même que Manchester aujourd'hui, même si je suis le premier à dire que des fois l'addition se fait par la soustraction et que c'est pas un empilement de talent qui fait la différence, je pense que ce joueur a quand même pas mal à apporter, comme tu l'as dit, de le mettre en neuf, en position d'avant-centre.
Je pense que Manchester. Oui, il y a pire que d'avoir Cristiano Ronaldo.
Il y a pire que d'avoir Cristiano Ronaldo. Ouais.
En parlant de deuxième passage qui se passe mal à Manchester United, parlons de Paul Pogba. On va terminer l'émission avec ce qu'on nomme maintenant l'affaire Pogba. Vous l'avez dû sans doute la suivre ces dernières semaines avec Mathias Pogba qui a dans un premier temps promis des révélations explosives sur son frère, mais aussi sur Kylian Mbappé. Et c'est important par rapport au sujet qu'on va développer par la suite. Pogba qui a, lui, porté plainte pour extorsion en bande organisée, il me semble.
Oui, je crois que ça.
À Turin, qu'il aurait reconnu parmi ses maîtres chanteurs son frère, Mathias Pogba. Bref, une affaire de famille assez nébuleuse encore jusqu'ici, mais qui n'a sans doute pas livré tous ses enseignements, puisque Mathias Pogba a encore promis des révélations dans les jours qui viennent et des preuves, notamment concernant Kylian Mbappé. Bref, tout ça est nébuleux, mais tout ça, ça ressemble quand même à un baril de poudre pour l'équipe de France. Et la question qu'on va se poser, Maxime, pour clore cette émission, c'est quelles conséquences peut avoir l'affaire Pogba pour l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde qui est maintenant dans 2 mois et demi ?
Alors déjà, il y a des conséquences sur le joueur parce qu'on ne peut pas imaginer que Paul Pogba ne soit pas perturbé par ça. On a appris dans la semaine, ça a commencé samedi dernier avec une vidéo assez lunaire posté samedi soir sur tous ses comptes TikTok, abonnez-vous partout, etc., en français, en italien, etc., de Mathias Pogba. Il commençait à dire, en gros, vous ne connaissez pas mon frère, j'ai des révélations à faire, etc., sur le truc un peu nébuleux. Même, on s'est à un moment demandé si c'était…
pas une opération commerciale.
Ouais, voilà, on a l'impression qu'il était prisonnier au fond d'une cave, Mathias Pogba, donc c'était un peu bizarre, voilà. Et en fait, on a appris au fur et à mesure de la semaine que les avocats, les conseils de Pogba… Paul se sont mis sur le coup et qu'il y a eu un événement assez dur puisque la veille d'un rassemblement d'équipe de France au mois de mars, il a été pris à part dans un appartement. On lui a demandé de filer de l'argent à tout un petit monde qui lui réclame, je crois, 13 millions.
Ouais.
Voilà.
C'est pas rien.
Donc pour le joueur déjà, c'est assez catastrophique.
Ah bah oui.
Parce qu'il se retrouve dans une situation où on se demande parfois, quand on analyse les parties des joueurs, on se dit il n'est pas bon, etc. Quand on sait ça, voilà, c'est problématique. On sait qu'il est blessé, qu'il a été blessé toute la fin de saison, est encore à août. Et déjà, il va prendre du retard sur le retour en équipe de France.
Ah ouais.
Et ça risque de poser problème. Mais on est encore dans une situation d'entre-deux. Et je dirais que c'est Noël Legrette qui a presque mieux résumé la situation en disant « J'espère que ça ne va pas remettre en cause la place de Paul en équipe de France. »
Et ce que je peux ajouter aussi sur Paul Pogba, c'est qu'il est en situation d'échec en club depuis quand même…
Ouais.
J'allais dire plusieurs mois, mais quasiment plusieurs années.
Presque 6 ans. Hein.
Presque 6 ans. Que tu l'as dit, il a une grave blessure. Ce n'est pas la première non plus, que ça fait quand même plusieurs temps que son corps lui lance des signaux. Qu'en plus, il y a cette affaire, c'est un millefeuille en fait. Et Pogba, on sait que c'est un joueur très fort de caractère, qui a un mental d'acier, qui peut porter beaucoup de choses sur ses épaules. Mais jusqu'à quand ? Est-ce qu'en Coupe du Monde, quand supposé qu'il la joue d'ailleurs, que tous les projecteurs seront braqués sur lui. Est-ce qu'il peut supporter tout ça? C'est une vraie interrogation. Et pourquoi c'est important pour l'équipe de France? On va le rappeler quand même. C'est que Pogba est sans doute le joueur le plus important des Bleus avec Kylian Mbappé depuis 4 ans. C'est aussi l'un des plus réguliers. À l'Euro, pour moi, ça a été le meilleur. Et donc, une équipe de France sans Pogba, elle perd quand même beaucoup, beaucoup de sa capacité de création. Beaucoup de elle est moins menaçante, tout simplement. C'est plus la même équipe de France. Et même si Tchouaméni est exceptionnel, c'est pas Paul Pogba en équipe de France. Donc, la question se pose d'autant plus pour l'avenir des Bleus. Il y a une vraie tempête médiatique qui s'annonce pour Didier Deschamps. On peut faire confiance à Didier Deschamps qui, généralement, dans ces exercices-là, se prépare très, très bien. Mais malgré tout, il y a des choses que tu ne peux pas combattre. Si Pogba et Mbappé, qui sont peut-être deux joueurs les plus importants, sont en conflit ouvert, et Mbappé n'est pas du genre non plus à masquer ses sentiments ou à masquer sa rancœur, on l'a vu notamment avec Giroud à un moment donné, faudra peut-être faire un choix ou sous peine de mettre ton groupe en tension extrême. Et c'est ça qui pose un vrai problème à 2 mois et demi de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est demain.
Oui, parce qu'on rappelle, je ne l'ai pas dit au début, parce que je suis parti sur le joueur, l'extorsion, c'est son affaire familiale, c'est que Mathias Pogba dit que, en gros, son frère a demandé à ce que Kylian Mbappé soit marabouté.
Et qu'il y aurait une vidéo qui prouverait ça.
Et en fait, ce que ça dit, au-delà du maraboutage, etc., ce que ça dit, c'est que, potentiellement, un joueur de l'équipe de France a demandé à une personne tiers de faire du mal, indirectement, on croit ce qu'on veut du maraboutage, mais de faire du mal à un coéquipier. Et en plus, c'est Kylian Mbappé. Et en plus, Kylian Mbappé, aujourd'hui, avec la stature qu'il a pris, j'allais dire même l'ego qu'il a, il ne peut pas laisser passer ça. Donc, on sait aussi qu'a priori, il y a eu un appel de l'un à l'autre pour essayer de comprendre ce qu'il avait fait. On ne connaît pas la nature des événements. Mais déjà, si on sait que ça a fuité, c'est pour dire que Mbappé prend ça très au sérieux et que ce n'est pas tout simplement une parole lancée en l'air. Mathias Pogba pourrait très bien dire... Bon, Mathias Pogba, il a fabule, il raconte ce qu'il veut. Non, il allait voir à la source, à Paul Pogba, pour voir ce que ça disait. D'où cette phrase de Noël Le Graët. J'espère que ça ne remet pas... Ce qui est presque inquiétant, c'est que normalement, Noël Le Graët ne se mouille pas sur ce truc-là.
Exactement.
J'adore Paul, j'adore Karim, j'adore tout le monde.
On a commencé à s'inquiéter à cette phrase-là.
Voilà. Et quand il a dit ça, c'est là qu'on a pris un peu conscience du truc. C'est-à-dire que là, il est en train de se poser la question...
Personne ne se posait
si
encore.
Si ça se trouve, Noël Le Graët a discuté avec Didier Deschamps,
tout à fait,
etc. Et que... Il ne fuite rien, mais il a traduit un sentiment, ça on ne sait pas. Mais c'est sûr que ça peut poser problème, parce que si vous êtes dans une équipe avec deux joueurs, il y a des équipes, l'histoire du football est regorge d'équipes de types qui ne s'aiment pas dans une équipe. Ça n'empêche pas de gagner. Voilà. Mais là, ce serait quand même très embêtant, par la nature des faits qui sont reprochés, qu'il y ait un achoppement là-dessus, surtout au regard de ce qu'était l'équipe de France en 2018. C'est une équipe sans égo. On a suffisamment parlé de l'équipe de Griezmann, l'équipe de Deschamps. Vous voyez que c'est des joueurs qui acceptent, et un entraîneur, qui acceptent d'avoir moins de lumière pour y arriver. Et là, ce serait quand même un truc très, 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 très dur.
Et l'arme principale de cette équipe-là, c'était quand même les passes de Pogba pour la vitesse d'Mbappé. Et c'est ce qui pose un gros problème. Donc, au-delà de l'équipe de France, c'est quand même le problème de Paul Pogba, qui aujourd'hui... On a bien du mal à l'imaginer à cette Coupe du Monde, à 100% de ses moyens. Déjà, l'imaginer à cette Coupe du Monde, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un joueur de football, il ne joue pas, il a pas repris. Donc, ça aurait été déjà suffisamment compliqué comme ça. Là, il y a un clan qui se désunit sous ses yeux, un clan qu'on croyait en tout cas hyper uni. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui laissent craindre... sinon une fracture, au moins un gros caillou dans la chaussure d'Didier Deschamps.
Alors il y a deux choses qui sont positives, mais c'est presque le hasard, alors malheureux hasard pour Pogba et le hasard du calendrier pour Deschamps, c'est que Pogba ne sera pas à la rentrée des Bleus. Donc ça déjà, c'est pas plus mal, ça permet de gagner du temps et d'y voir plus clair, parce que là, à l'heure où on vous parle, cette affaire n'a que 6 jours de vie. Et on en apprend tous les jours, c'est toujours nébuleux, c'est toujours assez particulier, mais au moins, on en saura plus. Et l'autre chance, c'est pour Didier Deschamps, c'est justement que ce rassemblement arrive plus tard qu'à l'accoutumée, parce que comme vous le savez, il y a la Coupe du Monde, le premier rassemblement des Bleus est fin septembre, alors que d'habitude, c'est vraiment dans les premiers jours ou à mi-septembre. Voilà. Donc ça permet aussi à Deschamps de temporiser. Deschamps, il n'a pas de compte à rendre d'ici la divulgation de la liste. Jour de la divulgation de la liste, évidemment, il y aura les interviews. Évidemment, ça tournera autour de ça, même si Paul Pogba n'est pas là. Donc là, il a au moins un peu de temps pour prendre du recul là-dessus. Mais c'est sûr que Deschamps sera vigilant. On connaît l'importance de donner à Deschamps à la vie de groupe. Évidemment, je ne vais pas comparer les deux situations, mais l'absence de Giroud, elle est liée aussi à sa place dans le groupe et comment ça va fonctionner de par sa position de remplaçant. Évidemment, il n'a rien à se reprocher, on ne parle pas de ça, évidemment. Donc on peut imaginer que s'il y a un gros problème entre deux joueurs principaux de l'équipe de France et qu'en plus sont liés à l'affaire qu'on décrit depuis quelques jours, compliqué d'imaginer les deux ensemble.
Tout ça va dépendre évidemment des preuves que va montrer ou non Mathias Pogba. Beaucoup de cette affaire maintenant, enfin des conséquences de cette affaire, sont dans les mains quand même du frère de Paul.
Donc on va bientôt de la justice.
Et bientôt de la justice. On va suivre ça avec attention. Et je crois qu'on a fait le tour, Maxime, pour aujourd'hui, non ?
Bah, je crois qu'on a fait le tour.
Hein. Ouais, on a fait le tour. On va pouvoir éteindre la caméra. Tu vas pouvoir nous raconter tes vieux souvenirs de 1992 où devant la télé, en émoi, un jeune homme roux regardait les exploits de Chris Waddle. Hein, c'est à peu près ça, Maxime ?
Chris Waddle, c'était la fin à Marseille.
C'était la fin, mais c'était même la fin de Chris Waddle, c'était mieux que... Ah, que tout ce que tu as vécu après, Maxime, non ?
Ah oui, quand même.
Ah oui, Chris Waddle. Merci, Anne Thirion.
Et qui n'a jamais vu Chris Waddle, là, sur YouTube ?
Bien sûr.
Regarde une compilation.
Alors moi, je te l'ai déjà dit 10 fois, mais quand j'étais gamin,
ah,
et que j'allais chez le coiffeur...
Et tu voulais te faire la même coupe ?
Non, c'est moi qui demandais la coupe de Chris Waddle.
Alors attends, on va s'arrêter.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Parce que Chris Waddle, il a eu deux périodes, en fait.
C'était la nuque longue.
Ah ouais, là, c'est chaud, là. Ouais. C'est pas la coupe que t'as arborée une fois dans Stream Team en début d'émission ?
Si, peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, j'ai été fasciné par Chris Waddle, moi aussi.
Moi, c'était plus au niveau du pied gauche que.
Mais moi aussi. Mais quand t'es gamin, tu prends tout, si tu veux. C'est un tout, le truc. C'est le pied gauche, la coiffure, les mimiques. T'aimes tout chez Chris Waddle. Voilà. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Chris Waddle, figure-toi, Maxime. Et ça devrait nous foutre un gros coup de vieux.
Non, mais c'est possible, hein, après, hein, encore une fois. Justement, c'est un appel à aller découvrir les joueurs du passé. D'ailleurs, on devrait peut-être faire une séquence là-dessus.
Séquence passée, ah ouais.
Séquence joueurs du passé.
Ouais. Moi, je parlerais d'Ibrahima.
Ouais. Ah bah, ça me paraît pas vieux, moi, c'est ça le problème.
Ah bah, oui, Ibrahima quand même. Bon, bref. Concluons cette émission. Parce qu'en plus, je crois que tu as un rendez-vous là.
J'ai un rendez-vous d'affaires.
Ouais, parce que Maxime, au début de l'émission, va vous la faire. Ah, les gars, ça va être compliqué. Là, je suis un peu brassé, machin. Je crois que j'ai mangé un truc.
Ah, mais je suis sûr d'ailleurs. Mais j'ai toujours mal au ventre. D'ailleurs, j'ai fait cette émission depuis le début en ayant envie de vomir. Et ça n'a rien à voir avec les propos.
Parce que moi, c'est maintenant que j'ai envie de vomir, après t'avoir entendu, Maxime, pendant une demi-heure. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. On se donne rendez-vous aussi mardi pour Juventus, Paris Saint-Germain-Juventus.
Paris Saint-Germain-Juventus, puisque la Ligue des Champions reprend.
Exactement. Pour quelques débris de vidéos aussi. Et puis, la semaine prochaine, sinon. Ciao tout le monde. Bye bye.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.